Vous écoutez
RMC.
Thibaut, tu es là parce que tu as publié un papier intéressant, très intéressant sur le site de SoFoot. Concernant le foot post-coronavirus. Alors certains appellent à des
grenelles. Dans un cas particulier, son article et que j'ai trouvé absolument passionnant et très intéressant, c'est dans un cas particulier, c'était ce qui s'est passé en Espagne en 2008. Détails qu'il a donnés, que d'ailleurs j'avais complètement oublié la situation de l'Espagne à ce moment-là.
Je te remercie d'avoir coupé la parole pour expliquer.
Continue. Voilà.
Donc je vais laisser Thibaut nous expliquer quel était le but de son papier et ensuite on débattra ensemble. Thibaut, le plat qui est avec nous, que tu as l'habitude de l'after, Thibaut, on t'écoute.
Ouais, on est en confinement, donc on confine, donc on réfléchit, on essaie un peu de se demander ce qui va se passer.
Ouais.
Et puis en regardant un peu moi sur les trucs sur lesquels j'avais bossé, parce que j'ai été longtemps en Espagne, vous savez, j'étais longtemps correspondant en Espagne, et puis j'ai écrit quelques bouquins sur l'histoire du foot. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on a des événements similaires, on a des situations comme ça où, en gros, le pays s'arrête et que devient le foot, quoi. Et donc, j'ai pas eu besoin de remonter trop parce que je suis allé jusqu'en 2008 et je me suis souvenu de ce qui s'est passé en Espagne. Et si tu regardes en fait l'histoire du foot et tu regardes ce qui se passe à partir de 2008 jusqu'à 2014, qui correspond en gros à la période où a duré la crise en Espagne officiellement, parce que selon le gouvernement espagnol, entre 2008 et 2014, ça tombe pile poil sur la période où les Espagnols ont absolument tout éclaté en sport et en particulier en football, et pas seulement dans les catégories professionnelles, aussi chez les jeunes, aussi dans les centres de formation. Et tu te rends compte en fait que la période de crise, qui était une crise très violente en Espagne. Moi, j'étais là-bas, c'était le pays pas en récession, 50% de chômage chez les jeunes. T'avais des gens qui perdaient leur boulot du jour au lendemain.
Et tu peux dire concrètement les effets que ça a eu sur le football et sur les clubs? Parce que c'était tu le précises aussi, c'est très intéressant ça.
Ouais, tu as en gros entre les U17 et la catégorie senior, t'as 20 titres majeurs gagnés, dont 2 euros seniors, une Coupe du Monde. Les U17, les U19, toutes les catégories en fait gagnent plusieurs fois des titres majeurs.
Ça veut dire qu'ils ont réussi à se réinventer sur le terrain malgré les difficultés économiques.
Non, mais les clubs étaient en perdition, il n'y avait plus une thune dans les clubs, plus, il faut le préciser. Moi j'avais complètement oublié ça.
T'avais 23, sur les clubs pro, t'avais 23 sur 25 qui étaient en cessation de paiement. Donc ils étaient sous redressement judiciaire. Tous les clubs, sauf le Barça et le Real, qui étaient tous en administration judiciaire, ils sont tous passés en administration judiciaire, sinon ils ne pouvaient plus payer leurs gars. Il fallait qu'ils payent leurs dettes, etc., ce qui a permis au club de survivre, de les mettre en cessation de paiement. Et c'est comme ça qu'ils ont un peu réformé toute leur structure, mais surtout que leur football a complètement explosé, parce qu'ils ont été obligés à ce moment-là, comme ils n'avaient plus un rond, ils n'avaient plus d'oseille, par contre ils avaient plein d'idées. Et du coup, sont arrivés une nouvelle génération d'entraîneurs, de formateurs, de joueurs, à ce moment-là, et ça correspond.
Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'oseille au Barça qui prennent Guardiola? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'oseille au Barça, notamment, qu'on prend Guardiola comme entraîneur?
À ce moment-là, c'est parce qu'il y a une crise institutionnelle très grave au Barça, où Laporta vient d'essuyer une motion de censure, il est à 60% contre lui, et finalement, il nomme Guardiola, et moi je me suis entraîné à l'arrivée de Guardiola. Il est arrivé, tout le monde rigolait, tout le monde dit, c'est qui ce mec? C'est un illuminé, en plus il veut se débarrasser d'Eto, de Deco et de Ronaldinho. On s'était dit tous qu'il arrivait là pour faire plaisir au président, faire plaisir aux sociaux. Et en gros, personne l'écoutait, quoi. C'était vraiment un peu un cache-misère. Et chaque club avait un peu sa spécificité. Il n'y avait pas de crise économique au Barça à ce moment-là. Par contre, il y avait une crise institutionnelle très grave. Il y avait une crise économique dans la quasi-totalité des autres clubs. Villarreal, par exemple. Villarreal qui était jusqu'à 2 ans avant en demi-finale de Ligue des Champions, se retrouve 3 ans plus tard en deuxième division. Il passe d'un budget de 120 millions à 15 millions d'euros. Et ce qui est très intéressant dans le modèle de Villarreal, c'est que le président, qui est un riche fabricant de céramique, décide en fait de refuser toutes les aides et de fonder un nouveau modèle économique fondé sur l'autosuffisance économique. Donc sur la formation, sur le modèle de jeu, et comme ça reconstruire entièrement le club à partir de l'autosuffisance, en refusant les dettes, en refusant toute forme d'autres subsides, au point que là ils sont remontés en première division, que le centre de formation est devenu une référence pour tous les clubs européens. Maintenant il y a énormément de gens qui vont visiter Villarreal, il a été refait entièrement, le centre de formation, c'est un des clubs les formateurs les plus intéressants à l'heure actuelle, mais on peut parler de tout un tas d'autres clubs en Espagne. Et ce qui est très intéressant, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le moment, c'est simultané. Et ce que tu peux regarder, même dans la durée, tu te dis, oui, mais c'est sur les premières années, en fait, ils bénéficient du travail d'avance, les premières années. Et ben non, ça continue. Plus ça avance, plus ils gagnent. Et là, tu regardes encore les derniers euros, en Euro U21, les Espagnols, ils sont en finale tous les ans depuis 5 ou 6 saisons. Là, de maintenant. Donc ça veut dire que tous les ans.
Et ça, c'est pas l'oseille. Et ça, c'est pas l'oseille, c'est le travail. C'est dans cette période-là, il faut aussi dire que le Barça est devenu le grand Barça.
C'est Barça Guardiola,
sans dépenser d'argent. Messi, ouais. C'est un enfant du club. Xabi, Iniesta, Busquets, c'est des gens qui n'ont pas été payés, ces gens-là.
Donc en fait,
on les a fabriqués.
La période de crise espagnole a fait non seulement éclater des talents. Ouais. Les clubs ont été obligés de se réinventer, d'être imaginatifs et de faire confiance à des jeunes entraîneurs, à des méthodes nouvelles, et ça a fonctionné.
Au niveau des joueurs. Ce qui est intéressant au niveau des joueurs, c'est même un joueur comme Iniesta. Un joueur comme Iniesta en 2008, il n'est pas titulaire avec Rijkaard au Barça. C'est Van Bommel qui est titulaire. Van Bommel et ensuite Deco. Il est titulaire en sélection espagnole parce que tous les formateurs espagnols le connaissent depuis longtemps. Mais au Barça, il a du mal à jouer, à enchaîner les matchs. Il n'est pas de droit de partir, mais quand même, il est difficile. Il arrive et la première chose que fait Guardiola, c'est à ce moment-là qu'il décide de mettre Xavi et Iniesta. Et tout le monde dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible d'avoir deux milieux de cette qualité-là en même temps? Il faut des milieux, il faut des mecs un peu plus costauds, etc., etc. En total, six mois plus tard, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde a considéré que, évidemment, que le Barça de Guardiola sans Xavi Iniesta, c'est quelque chose que tu peux même pas imaginer. Six mois avant, c'est quelque chose qui était même pas possible. Et c'est rendu possible précisément par une situation de crise qui, là, était une crise institutionnelle, mais en plus, qui était lié à une crise politique du Barça, où Guardiola refuse quasiment de faire venir des nouveaux joueurs, et il fait venir des joueurs, pardon, mais des joueurs qui à l'époque étaient plutôt des joueurs de seconde zone, Keita, Marquez, etc. C'était pas des premières mains, quoi, si je puis dire, avec malgré tout le respect qu'on a pour les joueurs qui sont devenus après, mais c'était pas des Cador, c'était pas des Neymar, c'était pas des Mbappé, quoi.
À ce stade de la discussion, ce que raconte Thibaut, là, en prenant cet exemple particulier qui est concret, Laure et Jérôme, du coup, est-ce que vous vous dites, tiens, pourquoi pas, ça peut donner des idées au foot français, que Laure?
Ouais, moi, ça faisait partie justement des choses. Je me suis dit, dans cette crise, on a souvent vu, moi, la formation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et c'est vrai qu'en France, généralement, on forme des bons joueurs. Mais aujourd'hui, l'économie fait que les clubs, dans ce système de trading, pour souvent assurer un équilibre budgétaire, ils ont tendance à vendre ces jeunes joueurs pour faire un petit peu d'argent. Et finalement, tu perds le bénéfice de ta formation, toi, en France, et puis tu envoies tes pépites à l'étranger. Et moi, j'aimerais, dans mon monde idéal, après, c'est dans mon monde idéal footballistique français, j'aimerais qu'aujourd'hui, peut-être que les clubs soient au moins composés de 50% des joueurs issus de la formation. Parce que ça rendrait, je pense, notre football un peu plus beau. Donc peut-être que oui, effectivement, c'est un monde idéaliste. Mais moi, ce côté-là, j'aimerais qu'on le voit un petit peu plus en France. Les Espagnols l'avaient fait à cette époque, lors d'une crise économique. Je trouve que ça serait une chose importante. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup
Moi, je préfère voir les jeunes Espagnols formés que ce qu'on forme nous, quoi.
Ouais, mais après, t'as une deuxième évolution en même temps, en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est quantitatif. Mais du point de vue qualitatif, le football lui-même change complètement aussi. Ça devient un football offensif, ça devient un football créatif. Et avec pas un rond, t'arrives à faire, en fait, du football offensif. Et c'est ça la grosse découverte, en fait.
C'est
que plus t'es pauvre, plus tu fais du spectacle, en fait. C'est ça.
Thibaut, t'as vu English Game?
Série sur Netflix. Je connais l'histoire de Blackburn,
parce qu'ils n'avaient pas d'argent qu'ils se sont dit on va jouer autrement, on va faire inventer le jeu de passe parce que les autres en face sont plus costauds.
Voilà. Oui, bien sûr, c'est quelque chose.
Quand on me dit on n'a pas les moyens de bien jouer, mais c'est la plus grosse des conneries qu'on peut dire. Mais oui, mais ça, il y a tellement de gens qui continuent de le dire. Mais on joue pas bien, on n'a pas les moyens. Mais il y a rien de plus con.
Moi, pour rebondir sur ce que vous disiez là, ce que Thibaut disait de ce qui s'est passé en Espagne. Déjà, oui, je veux bien le modèle du Barça. Après, t'as donné le modèle de Villarreal, mais. En fait, c'est pour en arriver à quoi, en fait, parce que en France, il y a cette crise actuelle.
Que t'as pas d'oseille et t'as des idées.
Oui, mais des idées. Mais c'est bien beau d'avoir des idées, voilà. Daniel. Avoir des idées, il faut des hommes, il faut des formateurs, il faut une philosophie qui soit différente. Comment, c'est pas parce que tu vas sortir de la crise que d'un seul coup les têtes vont se retourner,
Jérôme, tu vas te vider. C'est pas ça qu'on dit, c'est que ça peut amener les gens à réfléchir.
Mais réfléchir quoi? Parce qu'ils pensent aujourd'hui en France, et j'en ai la quasi-certitude, que tous ceux qui sont directeurs des centres de formation ont la bonne idée de former ces joueurs comme ça, ces jeunes comme ça, avec par moment de la qualité technique, mais plus de la qualité athlétique.
Sait bien, mais nous, c'est ce qu'on disait, c'était qu'on espérait que ça pouvait provoquer après. Moi, j'y crois pas une seconde non
bien
plus,
sûr.
Puisque nous, on forme pour vendre le plus vite possible.
Ouais, et tous les formes.
Thibaut,
je vais te couper, Daniel, pour une fois.
Non,
ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, dans un cas normal, si on raisonne avec des catégories normales de hors crise, évidemment, on va dire on n'a pas besoin, on aimerait bien, mais on peut pas, etc. D'accord. Mais là, on a changé de paradigme, comme dirait l'autre. On a changé de paradigme. On est dans quelque chose qui est un paradigme de crise. Et quand tu regardes un paradigme de crise et tu regardes ce qui s'est passé, je te parle de l'Espagne, mais j'aurais pu parler d'autres exemples. On prend l'Espagne. T'es en crise économique. Tu sors du confinement. Demain, tu sors au confinement. Bon, au bout de première semaine, tu dis « Ah, t'es content, t'as retrouvé la Ligue 1 ». À partir de la deuxième, troisième semaine, déjà, tu vas dire « Bon, vous commencez à nous casser les couilles avec votre Ligue 1. Faites-nous un peu du football. On n'est pas sorti du confinement pour regarder les 4-4-2. On est sorti du confinement pour aller voir nos potes au stade, pour aller voir des belles équipes, voir les nouveaux jeunes, voir nos couleurs portées fièrement par des jeunes. »
Tu veux dire d'ailleurs une exigence voilà, du public
exactement,
qui sera supérieure.
Écoute, il y a une étude historique très célèbre, étude économique très célèbre que Pierre Rondeau doit connaître, qui est une étude qui date des années 60 sur l'assistance du théâtre dans la crise des années 30 à Broadway. Les théâtres se sont remplis à Broadway pendant la crise des années 30. Et tu regardes le taux d'assistance des matchs en Liga en Espagne, donc entre 2008 et 2014, tous les ans, il augmente.
Tous alors qu'il n'y avait pas d'oseille à ce moment-là. Que
alors
la
qu'il
n'y
avait pas d'oseille. Il commence à descendre en 2014.
En gros, c'est l'opium du peuple. Quoi. C'est que pour oublier les galères, on va au stade et on
exactement.
Veut de la qualité. Quoi.
C'est les pains et les jeux. C'est-à-dire qu'on ne vit pas que de pain, on vit aussi de jeux. On a besoin de superflu. On a besoin de spectacles. Et donc, on ne peut pas raisonner avec le football comme on raisonne en vendant du PQ ou de la farine. Ce n'est pas la même chose. On raisonne sur quelque chose qui est proche de l'art ou proche de quelque chose, c'est-à-dire d'inutile pour nos vies primaires en confinement, c'est inutile. Par contre, dès qu'on sort du confinement, ça redevient indispensable.
Alors, à ce stade du débat, j'aimerais qu'on accueille Moustapha au 32-16 qui veut intervenir. Salut Moustapha.
Bonsoir messieurs.
Alors, le discours de Thibaut, là, tu y adhères?
Ah, mort, à fond. Moi, on va dire, comme vous le savez, je suis supporter du Real, donc on va dire que j'ai vécu des belles années, même au niveau du jeu, mais... Voilà, c'est pas non plus un jeu flamboyant qu'on voit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'on sortira de ce confinement, j'espère, sans problème dans nos familles et autres. Hein, je le souhaite à tout le monde. Moi, j'ai envie de voir du beau jeu. Moi, j'en ai rien. Après, je suis pas débile. Je me doute que pendant le confinement, Zidane, ça va pas devenir Guardiola. Benzema, ça va devenir Cristiano Ronaldo. Mais je suis d'accord avec lui. On a envie de voir de belles choses. Alors moi, je suis peut-être un des moins à plaindre. Parce que forcément, c'est le Real. Donc... Il y a quand même des joueurs de talent, donc je vois certaines séquences. Mais contrairement au potentiel qu'on a, c'est moche. Mais je suis d'accord avec lui pour l'ensemble du football. C'est vrai que s'il y a une crise qui touche le football... Alors, moi, je suis pas financier. Je suis pas Madame Irma non plus, donc je sais pas comment est-ce que ça fera comme pour l'Espagne ou autre. J'en ai aucune idée, on verra.
Mais il y a un truc, Moustapha, quand même, c'est que les difficultés économiques qui vont arriver pour les clubs pourraient rebattre un petit peu les cartes. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'aventures comme on a vécu récemment, l'Atalanta, l'Ajax, par exemple. On pourrait supposer... qu'en fait, on voit plus d'Atalanta et plus d'Ajax, en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec... Vous
mais tu sais, pour voir ça, il faut de la volonté, du travail à l'entraînement, alors, avec des mecs qui ont les idées de faire ça. Hein.
C'est juste ça.
Souvent, la facilité, économique. C'est de profiter des qualités techniques que tu as déjà, d'essayer de les mettre en valeur, ou des qualités physiques que tu as, c'est de faire le minimum pour avoir le résultat. Ce qui fait que tu as des équipes comme l'Atalanta ou l'Ajax, quand ça te plaît et qu'ils te font une belle saison, souvent, c'est le fruit de beaucoup de travail pour des joueurs qui sont globalement assez moyens si tu compares à des stars internationales, mais qui ensemble dans un projet collectif sur un ou deux ans réussissent à te produire ça. Mais c'est du taf, hein, c'est du taf.
Ouais, et la clé c'est ça, c'est le temps en fait. C'est être capable dans une période de crise,
c'est le temps.
Capable, quand tu réduis la voilure et que tu réduis tes charges, la seule chose que tu peux offrir à des entraîneurs jeunes ou à des hommes nouveaux, c'est du temps. Et donner 2-3 ans. Regarde Gasperini à l'Atalanta, il a eu des offres d'Europe entière, il est resté précisément à cause de ça. Parce que ce qu'il voulait, c'était du temps. Et on lui en a offert à la Bergame. Je crois qu'il a sa 4e ou 5e année.
Donc c'est vraiment, et surtout, la première année, ça n'avait pas très très bien marché. Hein. Voilà. Même au début, ça n'avait pas très, très bien marché. Il lui a fallu quand même du temps pour pouvoir installer cette philosophie de jeu. Hein. Et au début, même, il se demandait s'ils allaient le garder. Et il lui a fallu effectivement plusieurs années pour mettre en place ce qu'on voit aujourd'hui.
Mais le temps, c'est vrai que... Ouais. Pardon, Zibo, continue, je t'en
prie. Non, je t'en prie, non. C'est ça, et la seule chose que tu peux offrir à des hommes nouveaux maintenant, quand t'as pas de rond, quand t'as pas d'oseille, c'est de l'exposition et du temps. Et je pense que nous, on est capable de faire ça en France. Je veux dire, on est capable, on a énormément de clubs dans lesquels on peut développer des jeunes entraîneurs. Il faudrait changer quelques hommes, proposer des idées qui sont là depuis longtemps, mais qu'il faudrait mettre en œuvre et essayer de profiter de ce que tu disais, Gilbert, de rebattre un peu des cartes, pas tout, parce que tout n'est pas à jeter, mais rebattre des cartes au niveau de la Ligue 1 au moins, pour être capable de proposer quelque chose de nouveau et être un peu à la hauteur des attentes.
Mais d'accord, mais rebattre les cartes, moi je veux bien entendre tout ça, c'est beau discours, c'est magnifique et tout ça, mais de toute façon, déjà, c'est pas que la faute des entraîneurs, hein. Là, tu prends l'exemple de donner du temps à des entraîneurs. Oui, mais bon, déjà.
Ça, c'est le président qui doit donner le temps, bien sûr.
Tu peux donner du temps à un entraîneur qui a pas envie de faire le jeu que vous êtes en train de mettre en place, qui a envie de mettre autre chose en place, c'est-à-dire un jeu basé sur ce qu'on voit en Ligue 1 avec un gros bloc défensif, avec des mecs qui ont plus des parpaings aux pieds que des belles chaussures et puis par moment avoir une action de folie et puis tu gagnes 1-0 et puis tu refermes le jeu.
Mais regarde, ouais, mais ton produit il est invendable si tu fais ça. Déjà c'est invendable.
Il est invendable,
et ensuite je prendrai le modèle de Mourinho quand il est à Leiria. Quand il arrive à Leiria, il reste 6 mois à Leiria, il dit bon, moi je vais développer ce club, le meilleur moyen de faire de l'argent pour un club, c'est pas de développer des défenseurs, c'est de développer des attaquants. C'est donc de développer un modèle de jeu offensif. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Il a emmené la moitié de l'équipe à Porto après, avec Derley, etc. Ce qu'il faut, c'est beaucoup plus intéressant de développer des profils qui sont des profils offensifs. C'est la raison pour laquelle les Espagnols aussi se sont tournés vers ce modèle de jeu-là. C'est commercialement beaucoup plus intéressant de proposer ce système de jeu-là parce que ça te permet ensuite de faire des plus-values beaucoup plus importantes sur les joueurs que tu développes. Ouais. Donc, d'un point de vue économique, c'est aussi beaucoup plus rationnel de raisonner comme ça.
Mais
c'est
beaucoup
plus idiot de dire, je vais mettre des mecs derrière et je vais attendre et je vais peut-être gagner
Thibaut, 3 ou 4 millions
de plus que je vais gagner une place au classement. Tu vois,
je suis totalement d'accord avec toi, mais sauf que c'est pas juste un entraîneur, juste l'idée d'un président ou d'un directeur sportif. C'est un tout. C'est le mode de fonctionnement d'un club, c'est le mode de fonctionnement d'un centre de formation, c'est le directeur du centre de formation.
Comme ça, t'as des clubs en France qui commencent à réfléchir comme ça. Hein,
ouais, ils commencent.
Parmi les plus grands. Tu commences à avoir des cellules de gens qui réfléchissent à ça, qui commencent à s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, parce que ce qu'on leur propose à la Fédé, c'est pas à la hauteur des attentes. Et
mais je suis d'accord avec toi sur, comme tu dis, parmi les plus grands.
T'as des gens très compétents, c'est des gens à qui soit on leur donne pas leur chance, soit on les écoute pas, mais ce sont des gens qui sont entourés de gens qui pensent, de gens qui réfléchissent, qui vont ailleurs, qui vont visiter des autres clubs. Il y a plein de revues qui se sont créées en parallèle de la DTN, en parallèle de la Fédé, où les clubs ont leur propre écosystème qui est en train de se créer. Et t'as plein de clubs qui réfléchissent à ça.
Thibaut, je suis d'accord avec toi sur
la tendance, elle est plutôt là-dedans, tu vois, elle est pas dans autre chose.
Je suis d'accord avec toi sur la philosophie des grands clubs, comme tu dis. Mais c'est pas les grands clubs le problème en France. C'est les petits clubs. C'est eux, en fait. Comment ils arrivent à former des joueurs qui vont prendre de deuxième ou troisième série parce qu'ils n'ont pas les premiers choix, deuxième ou troisième choix, pardon, pas série, et à l'arrivée, comment les former et comment tu les formes avec quel directeur de centre de formation, quel entraîneur au-dessus, c'est tout simple. Et à l'arrivée, c'est que l'entraîneur qui est à la base dans l'équipe professionnelle, en effet, lui ait plus de temps en se disant, écoute, si je vis une année compliquée, et il faut pas qu'au bout de 10 matchs, parce que je suis dans le rouge, que mon président il vient de me voir et dit écoute, t'as pas de résultat, tu dégages. Donc là automatiquement c'est sûr que les méthodes pour t'en sortir, c'est tu te recroquevilles sur ton but, tu défends et puis t'essayes de contrer. C'est ce qui se fait au mieux parce que les équipes qui sont très joueuses, les petites équipes et les entraîneurs qui sont très joueuses de ces équipes là souvent le prennent dans le nez, quoi. Ils y arrivent pas. Donc là en effet, si tu laisses du temps à ce genre de club, à ce genre de centre de formation, ah là, peut-être qu'on aura un renouveau et on aura une belle surprise des plus petites équipes.
J'ai pas l'impression que le FC Nantes ait moins de temps que Villarreal, par exemple. J'ai pas l'impression que le FC Nantes soit un club plus important que le Villarreal ou que Villarreal soit un club plus important que le FC Nantes. J'ai pas l'impression que Grenade, j'ai pas l'impression que Rétafé.
Mais qui c'est qui est à la tête du FC Nantes?
Que Rétafé soit un club moins important que le FC Nantes.
C'est qui le directeur du centre de formation de Nantes?
Pardon?
C'est qui le directeur de centre de formation de Nantes? Si Nantes était une référence dans les années 90-2000 en termes de centre de formation.
Plus, mais ça fait longtemps que ça n'est plus, mais c'est de la.
Non, mais ce qu'il veut te dire, c'est que c'est pas des clubs plus importants.
Les clubs de Ligue 1 se sont déconnectés de leur histoire. Ils se sont déconnectés de leur identité.
Mais c'est ça.
Ils se sont déconnectés du passé. J'ai écrit trois bouquins là-dessus. Sur l'histoire du football français, il y a un patrimoine énorme en France. De gens qui ont fait énormément, qui ont créé plein de modèles de jeu, de gens qui pensent, de gens qui actuellement proposent tout un tas de choses. Il y a toute une littérature professionnelle là-dessus. Les seuls qui ne lisent pas ça, ce sont les entraîneurs professionnels et les gens des instances les plus élevées. Et tout le reste, tous les entraîneurs amateurs, tous les entraîneurs de jeunes, tous les formateurs, on a des formateurs. Je dis pas ça pour faire de la pub, parce que c'est pas l'objet. Mais il y a des formateurs exceptionnels en France. C'est pas pour rien qu'on a des super jeunes. C'est pas pour rien qu'on exporte autant de joueurs. C'est pas juste parce qu'on veut faire du trading. C'est aussi parce qu'on a des gens qui savent former des joueurs. Notre problème, c'est qu'au moment où on arrive à l'élite, on n'arrive pas à passer ce cap-là. Et parce qu'on considère que l'élite, c'est quelque chose à part. Alors que non, c'est juste la conséquence de tout le reste. C'est ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, etc., etc.
Revenons à notre foot post-coronavirus, là. Moustapha, un truc à rajouter?
Oui. Bah, très vas-y. Rapide, même si je sais que la crise, forcément, si elle impacte les grands clubs, elle impactera les petits, mais ce serait bien que, en fait, si ces crises il y a, ça mène des équipes, comme vous avez dit quand il y a eu l'Ajax, ou je pense au Dortmund de Klopp, à ce qu'ils restent ensemble le plus longtemps possible, parce que, en tant que footballeur, bon, quand ils nous ont mis 4-1, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais si Dortmund, ils avaient pu continuer tous ensemble, je sais pas jusqu'où ils auraient pu aller, mais ils auraient peut-être pu décrocher peut-être une Ligue des Champions ou quoi. Mais étant donné qu'il y a toujours la part du gain des grands clubs et tout, donc chaque année il y avait un départ et donc l'équipe s'affaiblissait. Ce serait bien qu'il y ait une équipe comme ça qui
bah, s'il y a moins de sous pour recruter, il y aura moins de départs, en l'occurrence. Bah,
pas forcément, parce que comme je l'ai dit, si les grands clubs sont impactés, forcément les petits aussi. Donc j'ai envie de dire un truc débile. Si demain le Bayern ne peut plus donner que 8 millions maximum aux meilleurs joueurs, Schalke ils vont pas pouvoir donner beaucoup plus. Ils vont donner forcément beaucoup moins, donc tout le monde sera impacté. Mais si ça permet des moins gros départs parce qu'il y a énormément d'argent et tout, ce serait beau qu'il y ait des équipes qui marquent l'histoire.
Moustapha, merci en tout cas, salut à toi. Bon, en tout cas, avec les gestes barrières après le confinement, on aura enfin un football d'évitement.
C'est du football.
Terminé les contacts.
Non, non, plus les duels, c'est fini. Hein.
Là, ça va. Ah bah là, ça va régaler la chic.
Là, en Ligue 1, on va être dans la merde.
Le ballon va tourner, les gars. Là. Attends, ça va, tu vois.
Non, mais bon, il faut comprendre, Gilbert, que le dire ça, c'est pas être un illuminé ou être idéaliste. Au contraire, c'est être parfaitement rationnel. C'est ce qui s'est passé, en fait, ça. Je décris, moi, je dis pas ce que je veux, moi, je décris ce qui s'est passé. Et quand tu regardes ce qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé.